au 1047 Outaouais. Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre point de repère. L'Outaouais
maintenant. OK, on est de retour à l'émission et on va parler d'animaux domestiques parce que depuis le début de la pandémie, c'est la folie. De plus en plus de gens achètent des chats et des chiens, particulièrement des chiens. Là, je sais pas combien d'amis s'en sont achetés au cours des derniers mois. Tout ça a créé une rareté, une hausse des prix. Ça fait en sorte aussi que plusieurs prennent une décision rapide sans trop s'informer parce que quand il y a un chien disponible, ben on saute dessus parce que sinon on le sait que c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Mais il arrive quoi si votre nouveau pitou ou minot tombe malade quelques semaines après l'avoir acheté? Est-ce qu'on est protégé? Comment ça fonctionne? On fait le point aujourd'hui avec Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour Monsieur Tanguay.
Bonjour Monsieur Brûlé.
Quand un consommateur s'achète un chat, un chien ou même un oiseau, est-ce qu'il y a une garantie?
Oui. Ben, on va faire d'abord une petite parenthèse. Peut-être que vous vous souvenez qu'en 2015, le gouvernement du Québec a adopté une loi pour qu'on traite mieux les animaux, qu'on les respecte comme des êtres vivants. Alors, le Code civil a été modifié et désormais, il reconnaît que l'animal est un être doué de sensibilité et ayant des impératifs biologiques. Mais on va y revenir. Malgré ça, ça peut paraître bizarre, mais l'animal est considéré comme un bien de consommation au lieu de la loi sur la protection du consommateur. Donc, un bien comme tous les autres biens. Ça veut dire que les dispositions qui concernent les garanties sur un bien s'appliquent aussi à un animal. Par contre, quand on parle ici d'un animal, acheté auprès d'un commerçant, donc une animalerie, un chenil, un refuge, un éleveur d'animaux, ça ne s'applique pas si vous achetez d'un particulier, par exemple, si vous achetez ça sur les petites annonces classées.
OK. Là, vous parlez de disposition de la loi sur la protection du consommateur. Elle consiste en quoi, au juste?
Essentiellement, ça peut paraître bizarre à entendre quand on parle d'un animal, mais la loi dit qu'il doit avoir une durée raisonnable et qu'il doit être exempt de vices cachés, exactement comme n'importe quel autre.
On dirait qu'on parle d'un lave-vaisselle, là.
Exactement. Alors, en d'autres mots, l'animal ne doit pas être malade et il doit normalement être en bonne santé pendant un certain temps. Combien de temps, c'est difficile à dire. Ce sont les tribunaux qui, ultimement, le déterminent selon les circonstances.
Oui, mais pas quelques mois ou même pas quelques années non plus. Là, un chien, c'est supposé vivre quand même un 8-10 ans minimum, pas un an et demi, là.
Oui, ben c'est ça. Ça va dépendre des circonstances, mais c'est sûr que s'il tombe malade quelques jours ou quelques semaines seulement après l'achat, on peut envisager un recours. C'est souvent le diagnostic du vétérinaire qui va être déterminant, parce qu'évidemment, il peut tomber malade un an après, mais c'est vous qui l'avez mal soigné ou mal nourri ou qui vous en occupez pas comme il faut. Donc, vous pognez, attraper une maladie, excusez. S'il peut identifier la maladie, le vétérinaire, il pourra aussi probablement dire si, à son avis, la maladie était déjà présente lorsque le consommateur a acheté l'animal. Car ça va être un facteur déterminant pour établir la responsabilité du commerçant.
Donc, les premières semaines, les premiers mois sont déterminants. Si mon chat ou mon chien semble malade, là, disons, une semaine après que je l'ai acheté, mon premier réflexe serait d'aller chez le vétérinaire. Est-ce que c'est bel et bien le geste à poser?
Pas tout à fait. Vous avez toujours l'obligation légale d'aviser le commerçant du problème avant d'entreprendre des démarches. Si vous voulez préserver vos chances de succès dans un recours, vous devez lui donner une chance de corriger le problème par lui-même au vendeur. Donc, le vendeur d'animaux pourrait, par exemple, avoir une entente avec un vétérinaire en particulier. Il vous demandera alors d'amener l'animal chez son vétérinaire. Il pourrait vous dire qu'il veut reprendre le chaton et vous en donner un autre. Bref, il peut y avoir plusieurs situations. Donc, en supposant qu'un chaton ou un chiot tombe malade quelques jours ou quelques semaines après l'avoir acheté chez un commerçant, le consommateur doit d'abord mettre en demeure le commerçant et lui donner un délai raisonnable pour réagir. Bon, comme il s'agit d'une maladie, le délai peut être bien court, hein, ça peut être 24 heures au moins. En cas d'urgence ou de refus catégorique du commerçant, ben on peut sauter l'étape de la mise en demeure, mais ce moment-là, il faudra faire la preuve qu'il y avait effectivement une urgence, puis que le commerçant, dès le départ, ne voulait rien entendre.
Oui, bon. Ou c'est samedi soir, tu sais, ça semble urgent, l'animal est vraiment malade, puis le commerce est fermé, pas capable de rejoindre le commerçant qui m'a vendu le chien ou le chat, bien là, c'est un peu normal que je vais aller dans une clinique d'urgence, puis après ça, on gardera les factures et tout ça, puis on essaiera de faire des arrangements, là.
Exact, exact. Et puis, si le commerçant ignore votre lettre de mise en demeure, ben, on peut le tenir responsable de tous les dommages qu'il subit. Ça pourrait être, par exemple, de lui réclamer les frais de vétérinaire pour autant qu'il soit raisonnable compte tenu du prix d'achat de l'animal. Bon, par exemple, on a vu un tribunal trouver que des frais de vétérinaire de 1 000 $ pour un chiot qui a été payé 200 $, c'était exagéré. À l'inverse, j'ai vu un jugement où il était question, dans le contrat de vente d'un chaton, que l'animalerie se limitait de responsabilité au prix payé pour l'animal, c'est-à-dire 34,50. On s'entend qu'en général, une facture de vétérinaire, ça dépasse facilement la trentaine de dollars.
Oui,
le juge, dans ce jugement-là, le juge a balayé du revers de la main la clause du contrat en disant qu'elle était abusive et sans effet. Donc, si on ne parvient pas à s'entendre avec le commerçant, l'étape suivante, ben, ça serait d'aller devant la division des petites créances, la Cour du Québec. Chaque cas sera évalué par le tribunal en fonction des circonstances puis de la preuve qui est présentée. Et c'est vous, le consommateur, qui devez faire la preuve. Donc, l'opinion du vétérinaire, notamment, sera très importante. Est-ce que la condition qui explique la maladie était existante au moment de l'achat? Quelle est la durée raisonnable d'un chien de ce type et au prix qu'on l'a payé? Est-ce que le consommateur a commis des fautes ou des négligences? Toutes ces choses-là entrent en ligne de compte.
Ouais. Disons que l'animal qu'on vient d'acheter a une maladie grave et qu'on a été obligé de le faire euthanasier. Quel genre de compensation on peut espérer obtenir dans ce temps-là?
C'est intéressant de jeter un coup d'œil sur le site jugement.qc.ca, jugement au pluriel. On fait une recherche dans la division des petites créances avec le mot-clé « animalerie » ou « chien » ou « chat », par exemple. Et la lecture des jugements est très instructive. Par exemple, la responsabilité de l'animalerie, quand la responsabilité de l'animalerie est prouvée, le consommateur peut s'attendre à se faire rembourser le prix payé pour l'animal, les accessoires qu'il a achetés s'il y a lieu, et les frais raisonnables de vétérinaire s'il a dû en consulter un, peut-être même les frais d'euthanasie. Il peut aussi demander des dommages. Par exemple, si la personne avait déjà un chat et que le nouveau chat malade était contagieux et a rendu l'autre chat malade, bien, la personne pourrait être dédommagée pour ça. On voit aussi que des demandes pour dommages moraux pour les troubles et la peine causée par la perte de l'animal.
Ben oui. Si tu as des petits-enfants, là, puis ils s'attachent au petit chien, puis le petit chien est là depuis quelques mois, mais on prouve qu'au fond, il y avait déjà une maladie. Je présume qu'il y a peut-être moyen d'avoir une compensation morale.
Là. Exactement. Puis c'est là que les changements au Code civil dont on parlait tantôt font que l'animal, ces changements-là qui disent que l'animal est considéré comme un être doué de sensibilité, ça peut jouer dans l'appréciation du juge des dommages qui pourraient découler à cause de la peine qu'on peut avoir eue. On ne perd pas un appareil électroménager, là, comme on disait tantôt, on perd un être vivant. Donc, on voit dans les jugements que beaucoup de détails autour de ça vont compter dans l'appréciation du tribunal. Puis c'est très instructif à lire quand on vit ce genre de problème-là.
Oui.
Ça peut nous aider à savoir quoi demander et comment bien préparer sa cause.
Oui. Puis le resserrement de ces lois-là depuis quelques années, ben tant mieux parce que ça met plus de pression, là. Ça augmente le niveau de responsabilité des gens qui font l'élevage et la vente d'animaux. Je le disais tantôt, la pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens ont voulu briser l'isolement en se procurant un animal de compagnie, puis la tendance se poursuit, même si on déconfine présentement. Avez-vous des mises en garde pour les gens qui nous écoutent en terminant?
Ben oui, effectivement, il y a des gens qui tentent de profiter de la situation. On rapporte de plus en plus d'arnaques sur des petites annonces. On voit des annonces sur Facebook ou ailleurs. On pense qu'il s'agit d'un éleveur ou simplement d'un particulier qui vend son animal. Il y a des belles photos. Le prix est attrayant. Vous vous renseignez. On vous répond que l'animal est disponible, que vous devez verser un dépôt pour le réserver. Puis là, on demande quand même un bon montant de dépôt, souvent par virement bancaire. Ben là, il faut se méfier parce que parfois, tout ça est faux. Il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas rien. Donc, le vendeur est un escroc. Et on n'arrive plus à le rejoindre, puis on peut difficilement récupérer son argent. Donc, on n'envoie jamais d'argent sans avoir vu le vendeur et l'animal en chair et en os. Mmh. Et puis, quand on est victime de ce genre d'escroquerie, ben, faut porter plainte à la police.
Tout à fait, tout à fait. Et si vous voulez plus de détails, évidemment, il y a votre site web, M. Tanguay?
Oui, à l'adresse www.opc.gouv.qc.ca. On a aussi un numéro sans frais, 1-888-672-2556. vous faites le 1 pour parler à un de nos agents.
Oui, puis le numéro local en Outaouais, c'est le 819-772-3016, donc 3016. Merci beaucoup, M. Tanguay.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.
À bientôt. Charles Tanguay, de l'Office de la protection du consommateur.